Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Postscriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
Lettre sonore numéro 7. Cher ancien moi.
Cher ancien moi, tous les jours je pense à toi.
Tu avais tout. Tu étais belle, bien née, bonne éducation, hautes études. Tu étais entourée, un mari, une petite fille, des bandes de copains, un travail envié dans le cinéma.
Mais tout ça, ça ne suffisait pas à te rendre heureuse. Au fond, il te manquait quelque chose.
Et chaque jour, tu dépérissais un peu plus.
Quand on la rencontre, on est d'abord frappé par la beauté de Priscille. Ses yeux clairs, profonds, qui vous sondent, ses cheveux blonds, son look rock et coloré. Elle est rarement seule, souvent accompagnée de gens loufoques, passionnés, drôles, qui se prennent rarement au sérieux, et ça tombe bien, elle non plus. Elle a le don de savoir s'entourer, sa lumière attire. Aujourd'hui, elle se déplace en fauteuil ou avec une canne. Cela n'a pas toujours été le cas. Dans cet épisode, elle s'adresse à celle qu'elle a été et elle dessine en creux la femme qu'elle est devenue.
Pour raconter mon histoire, il faut repartir de quand j'avais 12 ans. J'avais un petit frère qui était atteint de la mucoviscidose. Il est décédé quand il avait 9 ans et moi j'en avais 12. Ça a été comme si je m'étais fait amputer d'une partie de moi-même. En fait, on était hyper fusionnels avec mon petit frère. En fait, on avait 2 ans et demi d'écart et on faisait tout ensemble. Pour moi, il avait la mucoviscidose, mais finalement, c'était une maladie qu'on soignait comme une autre. J'avais l'habitude que le kiné vienne chaque jour pour faire cracher ce qu'il avait en trop dans les poumons et tout ça. Et ça faisait partie d'un rituel. Je ne savais pas qu'il était amené à mourir, quoi. Ça a été comme si je m'étais fait amputer d'une partie de moi-même. J'avais un petit frère et on faisait tout ensemble. Quand il est mort, tout s'est effondré autour de moi. Et après, bah voilà, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour surmonter leur malheur et puis pour continuer à vivre et continuer à m'élever, etc. C'est devenu vraiment un sujet tabou. Enfin, mes parents m'ont élevé beaucoup dans le silence, dans la tristesse. À table, on pensait tous à lui, mais personne ne parlait. Je me suis beaucoup réfugiée dans ma chambre, dans les études. On est polytechnicien de génération en génération, avec beaucoup d'aïeux qui ont fait des très hautes études, etc. Peut-être mes parents ont reporté toutes les attentes qu'ils avaient sur mon frère, sur moi, et du coup, m'ont mis la pression aussi pour que je fasse des hautes études, que je devienne un peu une femme d'affaires et tout ça. Et moi, je pense que j'ai voulu leur plaire à tout prix. J'ai voulu aussi combler la chaise vide, vivre pour deux. Et du coup, j'ai commencé à vouloir répondre à leurs attentes. Et donc, je me suis retrouvée à faire une première S alors que j'ai eu 600 maths au bac. Ensuite, j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait une école de commerce alors que j'étais nulle en commerce. Mais j'ai eu plein de signes importants dans ma vie qui m'ont dit « Attends, c'est pas ta voix ». Parce qu'à côté de ça, moi, je voulais être artiste peintre depuis toujours. Et en fait, je suivais des cours chaque année avec un prof différent. Et j'ai fait des stages où à un moment donné, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Mais attends, tu peux faire fac d'art plastique, tu peux faire ceci, cela ». Et en fait, j'étais là « Non, non, en gros, j'ai pas le droit ». Enfin, je m'autorisais pas, en fait, à suivre ma voie. Mon père, il m'avait toujours dit « Mais attends, tu copies bien, mais... t'as pas non plus un talent extraordinaire », et du coup je m'étais dit non, mais en fait t'as juste envie d'être une artiste mais tu l'es pas profondément et tout ça. Et puis finalement je me suis retrouvée dans le cinéma, parce que finalement c'était le seul secteur artistique que mon père m'avait autorisé, parce qu'il m'avait dit « Ah, c'est bien le cinéma, c'est bien, c'est un secteur porteur ». Sauf que je me suis retrouvée finalement à faire de la gestion de budget et de planning, et quand j'étais à côté des artistes, ce qui est peut-être encore plus difficile finalement quand on l'est soi-même. À 30 ans, j'avais commencé à vouloir tout cumuler en même temps. C'est-à-dire que j'ai eu ma première fille, j'étais pas du tout prête à l'avoir, mais en fait, il fallait surtout que j'aille jusqu'au bout du modèle parfait et que donc je me marie, que j'ai des enfants et tout ça. Au moment où j'ai eu ma première fille, j'ai eu un baby blues. J'avais pas d'émotion par rapport à elle, quoi. C'est-à-dire que quand elle pleurait, ça me faisait rien. J'avais pas spécialement envie de m'en occuper. Pour moi, j'étais contente quand elle dormait. Enfin, j'avais l'impression que je l'aimais pas, que j'étais une mauvaise mère, que je faisais pas comme il fallait, que je faisais un peu tout comme un robot, mais qu'en fait, j'avais pas d'émotion. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai commencé à me dévaloriser sur ça, et puis sur autre chose, et puis sur autre chose. J'avais ma fille qui avait quelques mois, j'avais un métier qui était extrêmement prenant et en plus dans un contexte qui était super difficile parce qu'en fait notre boîte venait d'être rachetée par un grand groupe. Mon poste était menacé, il y avait des gens qui étaient licenciés tous les jours, des gens qui partaient. En plus parallèlement à ça, j'avais décidé de devenir professeur d'art plastique. Mais en parallèle, c'est-à-dire que je m'étais dit je vais déjà passer une licence d'art plastique en parallèle de mon travail. J'ai essayé de mener de front tout ça, mais finalement, j'étais jamais là où il fallait. C'est-à-dire que quand en fait, je bossais mes cours, je culpabilisais sur ma fille dont je m'occupais pas. Quand j'étais avec ma fille, je culpabilisais sur le travail que j'avais mal fait. Enfin, bon, je suis tombée dans une profonde dépression. Où finalement, un matin, j'ai plus réussi à mettre un pas devant l'autre. Tout me paraissait une montagne. J'arrivais plus à aller au travail. J'avais l'impression que je passais aussi à côté de ma vie par rapport à cette histoire d'artiste peintre. Et du coup, un jour, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pété les plombs. En fait, j'ai pas réussi à mettre un pas devant l'autre. En fait, j'ai tout lâché. C'est-à-dire que j'avais plus de goût à rien. J'arrivais plus à avancer. J'arrivais plus à. Pour moi, aller au travail, ça devenait une montagne. Après, ma fille, du coup, quand je la voyais, je pleurais. Donc, en fait, elle m'a renvoyé un regard triste. Donc, ça me culpabilisait encore plus. Donc, je me disais, mais je préfère que ce soit son père qui s'en occupe parce qu'au moins, il est bon vivant. Et voilà, quoi. Donc, du coup, c'était hyper douloureux de m'occuper de ma fille. Et puis, voilà, mes cours, j'avais tout laissé tomber. Donc, je m'étais dit, de toute façon, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Enfin, voilà, quoi. Je commençais, en fait, la nuit à avoir des espèces de sueurs dans le dos, des angoisses terribles. Je voyais tout le monde qui s'agitait dans tous les sens. Et moi, j'arrivais plus à être dans le mouvement de la vie, quoi. C'est un état qui a duré 2 ans, où, du coup, j'ai fait des allers-retours dans des établissements psychiatriques. Donc en fait, je me sentais très bien quand j'étais là-bas parce que finalement, j'étais coupée du monde, ça m'allait très bien. Et puis en fait, il y avait pas mal d'ateliers d'art-thérapie, donc en fait, je me lâchais là-dedans et tout ça. Mais en fait, quand je revenais en fait dans la société normale, c'était encore plus dur parce que en attendant, en fait, la vie, elle avait continué, les gens, ils avaient avancé sans vous. Et du coup, au boulot, par exemple, on me prenait encore moins au sérieux parce que j'étais complètement à la ramasse, quoi. Donc du coup, c'était encore pire, quoi. C'est comme ça qu'un jour, n'en pouvant plus, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Oui, je sais que quand j'entendais avant accident de voyageur sur une ligne de métro, je me disais mais comment la personne a pu faire ça, comment elle a pu avoir l'idée de ça. Ça me paraissait complètement étranger et effectivement je comprenais pas en fait. Parfois, limite, ça m'énervait, en fait, quand tout d'un coup, on attendait l'accident de voyageur et que, du coup, il fallait attendre une demi-heure. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'énerve, en fait, les gens qui jugent le suicide parce qu'ils pensent que c'est un choix, alors que pour le coup, en fait, c'est pas un choix. C'est aussi parce que on a une exigence par rapport à la vie que peut-être peu de gens ont, en fait. Après, je suis d'accord, enfin, y a aussi un côté lâche, effectivement, parce qu'on abandonne tout le monde. Et en même temps, un côté courageux, parce qu'on affronte la mort, hein, comme dans les vieux mythes, là. On ose affronter la mort. Mais même moi, ça me paraît étranger tout ça, parce que je me dis, mais comment j'ai pu arriver là? Parce que c'est ça, en fait. Hein. C'est qu'à un moment donné, on se sent guidé par une force qui nous dépasse et qui n'est pas nous, en fait. C'est un truc que tu ne réfléchis pas, juste un peu plus. Et moi, je ne regrette pas, parce que finalement, ça m'a permis d'avoir la vie que je voulais avoir. Puis je me suis ratée et du coup je me suis retrouvée à l'hôpital amputée de mes deux jambes et de mon bras droit. C'était encore plus l'horreur évidemment quand je me suis réveillée comme ça parce que j'étais encore en dépression et en plus avec ce physique là donc Je me suis dit, alors là, c'est la fin de tout, quoi. Là, il faut juste que j'aille en Suisse me faire euthanasier, là. C'est pas possible. Et puis finalement, j'ai rebondi grâce à des rencontres que j'ai faites au service psychiatrique de l'hôpital et puis ensuite au centre de rééducation.
Cher aide-soignant, je t'ai rencontré dans le service psychiatrique où tu travaillais. Je t'ai dit que c'était la fin de tout, que je voulais mourir, que c'était inhumain, qu'on n'aurait jamais dû me sauver. Et toi, tu m'as répondu, « Mais attends, t'as pas le droit de dire ça. » Tu m'as dit, « Moi, quand je suis arrivée du Mali, j'avais pas de famille, pas d'amis, pas de travail. Je devais faire face à une discrimination omniprésente. Et je me suis battue. Toi, tu ne te rends pas compte. Tu as un mari, tu as une petite fille, tu as plein de richesses en toi. Tu as tout si tu veux pour t'en sortir. » Ces paroles, je ne les ai jamais oubliées. Cela a été un électrochoc. Grâce à des rencontres comme toi, des sortes de messagers, j'ai pu rebondir.
Ça m'a un peu réveillée, même si sur le moment, en fait, j'ai pas... Enfin voilà, je l'avais gardé dans un coin de ma tête. Bah, je dis toujours, en fait, ça a commencé au service psychiatrique avec... J'ai pris une vraie douche, en fait, alors que jusqu'à présent, juste on me lavait comme ça au gant. Ben, c'est bête, mais en fait, juste de prendre le jet, de se le mettre sur soi, d'être autonome dans sa douche et de... le contact de l'eau sur ma peau, en fait, tout d'un coup, j'ai été dans la sensation. J'ai plus été dans le regard de l'autre sur moi, mais vraiment dans la sensation. Ça a été le déclic. Je me suis dit, ben, ça va être des petites choses comme ça, en fait, que je vais comme ça accumuler. C'est pas parce que j'étais handicapée que je pouvais pas prétendre au bonheur et en tout cas me donner les moyens d'être heureuse, quoi. Et je me suis dit, eh ben dans cette vie-là, je réaliserai tous mes rêves, et notamment celui d'être artiste. Personne sera là pour décider à ma place, en fait. À partir de ce moment-là, j'ai remarché en 3 mois contre toute attente, en fait, parce que j'étais encore en centre de rééducation. Et puis, dès que je suis rentrée à la maison, j'ai peint du matin au soir. Et puis, parallèlement à ça, par rapport à ma fille, ben en fait, à partir du moment où j'étais bien dans ma peau, ben en fait, on a développé une relation de complicité extraordinaire. Parce que finalement, bah, les enfants, c'est magique, quoi. C'est-à-dire qu'ils vous en veulent pas. Ma fille, elle attendait que ça. En fait, moi, à l'époque, j'habitais en banlieue parisienne et je faisais tout en fauteuil électrique. Du coup, je l'emmenais partout avec mon fauteuil électrique. Je l'emmenais à l'école. Même les autres gamins de sa classe, ils étaient jaloux parce qu'on allait plus vite qu'eux. Malgré le handicap, on partait à la mer en vacances. J'ai commencé à reconduire. Enfin, quand on est handicapé, ce qui compte, c'est l'autonomie, quoi. À 32 ans, j'ai tout réappris. C'est-à-dire, j'ai réappris à peindre et à écrire de la main gauche. Avec mon ex-mari, ça a été compliqué parce que quand il vous arrive un truc comme ça, vous changez vachement, en fait. Donc après, j'ai rencontré mon amoureux, Fred, ancien sportif de haut niveau, donc avec un mental d'acier.
Cher amoureux, cher Fred, tu es en quelque sorte mon gouvernail. Sans toi, j'aurais du mal à garder le cap. Tu es mon pilier, tu fais face à n'importe quelle difficulté, n'importe quel combat, n'importe quel défi. Rien ne semble t'ébranler, dans les moments où moi je peux avoir des doutes ou des fragilités. Et puis avec toi, j'oublie mon handicap. C'est simple, tu trouves des solutions à tout. Mon MacGyver à moi. Merci de m'accompagner sur cette belle route que nous dessinons ensemble chaque jour.
C'est mon moteur, en fait. Grâce à lui, j'ai pu faire du surf dans l'océan. Il m'a adapté une planche à mon corps. Et puis, c'est lui aussi qui me permet d'exposer en France, à l'étranger, à l'autre bout du monde. En fait, il conduit le camion qui transporte une remorque avec tous mes tableaux, plus tous nos fauteuils roulants. Parce qu'en fait, oui, j'ai pas dit qu'il était assimilé paraplégique. Il est en fauteuil roulant. Voilà. Ensemble, on a une petite fille. Nous deux, on a envie aussi de changer l'image du handicap, en fait, de montrer que c'est parce que... on a tel handicap qu'on ne peut plus rien faire. On peut aussi rigoler, quoi, parce que parfois, il y a des gens, ils nous voient tristement, « Ah, ma pauvre, ah, bon courage !» Mais en fait, tout va bien. Enfin, les gens ne savent pas ce qu'on vit à l'intérieur. Enfin, finalement, j'ai pas l'impression qu'on fasse moins de choses que d'autres personnes, quoi.
«
Cher ergothérapeute.
Cher Claire. Donc là, tu vas penser, donc fermeture demain.
En ce moment, je viens te voir une semaine par mois.
T'arrives ou pas à visualiser ton membre fantôme?
Ouais. Même si toute cette rééducation est fastidieuse et demande beaucoup d'énergie et de concentration,
tu relâches.
Tu me pousses à me dépasser. Tu sais rebondir en fonction de chaque nouvelle difficulté qui se présente.
C'est bien, franchement. C'est bien.
Tout ça, c'est des moments précieux. J'en suis consciente.
12 ans après l'amputation de son bras droit et de ses jambes.
Une intervention qui lui permettra d'utiliser son bras amputé grâce à une prothèse bionique.
Il faut parler du coût de cette prothèse, entre 80 et 120 000 euros, c'est une somme importante, et qui n'est pas remboursée par la Sécurité sociale.
Cette intervention, une première en France, a consisté à réactiver les nerfs présents dans le moignon de Priscille. Des nerfs qui commandaient la main et qui ne servaient plus à rien en raison de l'amputation.
Ouais, donc cette année, je me suis lancée dans une nouvelle aventure. En fait, j'ai été la première en France à être opérée selon une technique qui s'appelle TMR, Targeted Muscle Reinnervation, c'est-à-dire réinnervation ciblée des muscles, pour à terme avoir une prothèse de bras bionique, c'est-à-dire une prothèse de bras que je pourrais commander par le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont récupéré les nerfs qui servaient plus à rien en fait, dans le bras amputé et ils les ont reconnectés à des morceaux de muscles. Et en fait, ces nerfs, après 13 ans de... où ils n'ont pas servi, en fait, eh ben, ont repoussé dans les muscles. Et en fait, vont permettre de commander une prothèse de façon complètement naturelle parce que en fait, le nerf qui, par exemple, servait avant à ouvrir la main va permettre d'ouvrir la main de la prothèse. Et donc, ce bras bionique, si j'arrive à l'avoir, parce que bon, il est hyper cher, si j'arrive à l'avoir, en fait, j'aurai une main toute articulée qui sera noir métal. Le bras, il sera aussi noir entre le côté métal et argent. Tout d'un coup, ça donne une image plus stylée. Moins en fait misérabiliste du handicap où on imagine justement la personne handicapée avachie sur son fauteuil, les cheveux gras, voilà avec sa vieille couverture et qui attend la mort quoi. Même si je me sens bien actuellement, j'ai toujours une lourdeur du fait de mon appareillage, du fait de mon handicap. Et puis voilà, et puis je peux plus mettre en maillot de bain, je peux plus mettre en short. J'ai plus aussi cette légèreté d'avoir juste une robe d'été. Tu sais, quand il fait chaud, moi j'ai les prothèses qui sont quand même assez lourdes, qui sont un peu comme un carcan, comme un corset. Où j'aime bien, de temps en temps, tu vois, me remettre dans mon ancien corps pour sauter en l'air ou courir vers la mer et sentir le sable chaud sous mes pieds. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois, des trucs, en fait, des espèces de joie pure, toute simple, qui partent de ton corps et de ton rapport direct avec la nature, quoi. Et c'est vrai que ben, le contact des pieds sur le sol, tu vois, c'est un truc énorme quand même. C'est sûr que c'est des choses qui me manquent, même si je les vis autrement. Par exemple, quand je peins, tout le geste, l'énergie que je mets dans ma toile, finalement, c'est un peu la danse que je peux pas faire, tu vois, sur Terre, quoi. Mais par contre, j'ai trouvé une liberté que je pense que j'aurais jamais trouvée avec mon ancien moi, quoi.
Cher nouveau moi, cette année, j'ai plein de projets. Je vais notamment être la première femme bionique française à avoir une prothèse de bras commandée par la pensée. 2 ans de rééducation intensive pour ça, avec une équipe médicale incroyable, enthousiaste et ultra compétente. Je vais devenir une femme au super pouvoir, une sorte de cyberwoman. Un bras en métal, des doigts tout articulés. Et puis il y a aussi mes deux amours, mes deux filles. Jeanne, 7 ans, et Sarah, 15 ans. Alors notamment, j'essaye d'avoir vraiment des moments précieux avec elles et de leur concocter des vacances un peu sympas. Alors par exemple, j'ai prévu du ski en février, Paris aux vacances de printemps. Jeanne rêve de voir la Tour Eiffel. Enfin bref, si tu me voyais aujourd'hui, je pense que tu hallucinerais. Je ne suis plus celle qui doute, qui a peur de tout, et de l'image qu'elle renvoie, celle qu'on oublie, celle qui s'efface. Non, aujourd'hui, je m'affirme. Je sens que j'ai des choses à défendre, pas seulement par rapport au handicap, mais aussi, je pense, par rapport au sens qu'on peut donner à sa vie et aussi par rapport au rôle qu'on a en tant que femme aujourd'hui dans le monde. Qui sait, peut-être tu serais fière de voir que ce parcours, même s'il n'a pas été des plus simples et qu'il continuera toujours d'être compliqué à cause du handicap, m'a malgré tout permis de me révéler dans ce que je devais être. Car finalement, combien de gens passent à côté de leur vie, à côté de leurs rêves ?
Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner dès maintenant à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Partagez-nous, vous aussi, vos histoires et vos témoignages en nous laissant un message vocal sur notre site internet postscriptum-podcast.fr.